Amis de la Communique, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Thierry Rossin.
Bonjour Dan Leclerc, quelle matinée.
Quelle matinée éprouvante. Nous sommes à l'aube de Pourim, veille de Pourim, et nous sommes dans un endroit un peu particulier que nous connaissons bien tous les deux, même si nous ne l'avons pas fréquenté à notre quotidien. Notre environnement le connaît également, c'est l'école Akiba qui nous accueille aujourd'hui.
Dan, est-ce que tu as pris mon goûter ?
J'ai pris ton goûter, ta pomme, tout ce qu'il faut, ton petit Michelin Manotte, comme c'est la tradition à Pourim. Alors, nous recevons aujourd'hui, en tout cas, l'école Akiba nous reçoit. Je remercie par la présente également David Usan, le directeur de l'école, et surtout nos deux invités. Ce n'est pas David Usan, ce n'est pas des élèves, du conseil pédagogique, ce sont des professeurs et pas n'importe qui. Moshe Choukroun, bonjour.
Bonjour, bonjour Dan, bonjour Thierry.
On est très heureux d'être chez vous, parce que ce n'est pas nous qui vous recevons, c'est vous qui nous recevez chez vous. Et vous êtes accompagné, M. Choukroun, de Shaul Spingard. Bonjour.
Bonjour Dan, bonjour Thierry.
Shaul Spingard et Moshe Choukroun, vous êtes à l'initiative d'une pièce de théâtre pour le moins originale. Ça s'appelle Le Roi dans la nuit. C'est une pièce de théâtre proposée et jouée par vos soins, mais pas que, parce qu'il y a toute une équipe pédagogique de professeurs qui sont à vos côtés. Racontez-nous comment ce projet Le Roi dans la nuit a démarré. Allez, Shaul Spingard.
Alors, ce projet est né un matin lorsque j'essayais de réfléchir et de trouver un projet qui pourrait associer les professeurs de différentes écoles de Strasbourg pour essayer de travailler ensemble et d'associer nos talents. Donc, j'ai décidé d'écrire une partie de la pièce de théâtre, puis de proposer le projet à un enseignant de l'école Akiba, Moshe Choukroun, puis à un enseignant Tashbar, Arthur Julier, et un enseignant en théâtre, Jonathan Bengio.
Très bien, mais Dan, on a oublié l'essentiel.
On a commencé sans oublier l'essentiel, c'est vrai. On a démarré tout de suite sur les chapeaux de roue avec Shaul Spingard et Moshe Choukroun.
La question, le rythme.
Voilà, le rythme, nous avons une question complémentaire pour vous. Là, on a posé un petit peu le décor, comme au théâtre, on a mis les acteurs en scène, mais il y a un préalable à tout ça, avant que le public n'arrive, c'est de vous découvrir. Et notre question traditionnelle, Moshe Choukroun et Shaul Spingard, c'est qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Moshe Choukroun.
Alors, moi, je viens de Strasbourg, je suis enseignant à l'école Akiba, j'ai fait aussi toute ma scolarité dans cette école. Et voilà, j'enseigne le collège, je m'occupe aussi un peu de mouvement de jeunesse à l'extérieur, le mouvement de jeunesse Néarim, pour ceux qui connaissent.
Non, on ne connaît pas.
Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est Néarim ?
Alors, Néarim, c'est un mouvement de jeunesse qui est en dehors de la communauté, ça se situe à Chéarim, 10 rue de Verdun, et c'est pour des jeunes qui veulent étudier en dehors du cadre scolaire. Ça touche à peu près une quarantaine de jeunes dans l'année.
Qu'est-ce que ça veut dire, Néarim ?
Néarim, c'est des jeunes. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour la tranche d'âge entre 14 et 18 ans. Donc on fait plusieurs activités, que ce soit les Shabbatot, des études, et ou bien la yeshiva d'été. On organise des week-ends, des petits séminaires pour les jeunes qui veulent étudier et avoir un petit peu d'animation en dehors du temps scolaire. Sinon voilà, je travaille aussi avec Stéphane Guessman pour différents projets pour la jeunesse, notamment le kidouche des ados au sein de
du
consistoire.
Strasbourgeois d'origine.
Strasbourgeois d'origine et dans l'âme aussi.
Et dans l'âme aussi. Alors on a une tradition aussi, c'est un peu de mishparologie pour savoir un petit peu le côté parents, grands-parents, jeunesse, d'où est-ce qui sont vos parents et votre environnement proche.
Moshe.
Alors moi mes parents c'est Guy et Mercedes Choukroun.
Tout s'explique là, ça maintenant, ça y est.
Voilà, vous les connaissez. Mon père vient d'Oran, ma mère de Tanger, et aussi Strasbourg depuis très 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 longtemps. Ma mère était à Cité Lorveille, et mon père était à Cronenbourg au départ, avec le rabbin Pérez.
Donc John Fitt, ta maman.
Frigin. Frigin.
Donc Mercedes Frigin.
Voilà, c'est ça.
Merci, Moshe Choukroun. Alors, pour Shaul Spingard, le nom parle de lui-même aussi, mais même question, même processus, Shaul Spingard.
Alors, je suis enseignant à l'école Yehuda Lévi, en classe de CM2, et je suis également le responsable du Kodesh de l'école. Donc, c'est ma troisième année là-bas. Donc, je suis responsable de l'animation juive de l'école, donc monter des projets pour les enfants, des fêtes, des projets pédagogiques. Scolaire et extrascolaire. Voilà, on travaille avec une équipe de trois enseignants à l'école. Je suis également marié, père de trois enfants, trois garçons. Je fais également de la musique. Je fais des animations de bar mitzvah, de mariage avec mon synthétiseur et ma voix.
Et, un petit échantillon.
Moi, ouais, j'ai eu l'occasion déjà d'entendre Charles Spingard, j'aime beaucoup.
Vas-y, chante. La chanson.
Mon cœur est déchiré en deux, je ne vois plus mon Dieu qui est dans les cieux. Te caches-tu, je suis seul sur terre. Montre-toi, montre-moi ce que je dois faire. La haine, la jalousie, des jeux dangereux.
Waouh. Et là c'est pas la France un incroyable talent, c'est Akiba un incroyable talent. Bravo, parce qu'à capella comme ça, à froid, bravo.
C'est une de vos compositions ?
Oui, ça fait partie de la pièce de théâtre. Il y aura également, à part du théâtre, de la musique et des chorégraphies.
Magnifique transition. Alors, on n'a pas tout à fait terminé, évidemment. Mishparologiquement parlant, on connaît bien la famille Spingard avec votre papa, Claude.
Voilà, je suis le fils du rabbin Spingard, rabbin de la synagogue de l'Esplanade et de Célestat.
Et de Célestat, voilà.
Et ma maman, Brigitte Spingard, qui vient de Roubaix. Voilà. Et mes grands-parents... On est tous issus de familles ashkénazes.
Voilà, pure
mais
souche.
Toutes les notes mitzvot et les bar mitzvot connaissent...
Madame Spingard.
Non, monsieur et Madame Spingard.
Les deux. Alors voilà, ça c'était pour la...
Nous saluons.
Que nous saluons bien évidemment toute la famille. Alors, Shaul Spingard, Moshe Choukroun, Arthur Julie et Jonathan Benjo, vous avez donc proposé cette pièce « Le roi dans la nuit », pièce de théâtre proposée et jouée par le corps enseignant. C'est aussi ça un petit peu la singularité, la spécificité de cette pièce.
Voilà, alors l'idée c'était un petit peu comme Shaul vous l'a dit tout à l'heure, de montrer que les enseignants de différentes écoles étaient aussi capables de travailler ensemble et de proposer quelque chose de pédagogique à disposition donc d'abord des élèves, c'était la première cible, et ensuite du public. Je précise voilà, que nous allons faire des représentations pour différentes écoles. En dehors des représentations proposées le 8 mars au centre communautaire, il y a aussi une représentation spécifique pour Tashbar, Yehuda Alevi,
sur la Reine
Esther. Représentation pour Akiba, donc sur la pièce...
La journée nationale du droit des femmes, le 8 mars. Ça tombe bien.
Exactement, tout à fait.
C'est une belle
complémentarité. C'est pour ça qu'on a fait cette pièce, n'est-ce pas, Shaul? C'était exprès la date du 8 mars.
Un beau rebond. Alors, Le Roi dans la nuit, finalement, ça parle de quoi? Est-ce que c'est une relecture de la Megillah? Est-ce que c'est un pré-Pourim, un after-Pourim, un pendant-Pourim? Comment est-ce que vous la définissez? Comment est-ce que ça se décrit?
Alors, Le Roi dans la nuit, c'est une pièce de théâtre qui, évidemment, reprend l'histoire de la Megillat Esther, mais pas dans l'ordre chronologique.
C'était trop simple sinon. On connaissait, on sait le début, on sait la fin, donc il n'y a plus de mystère.
C'est également très long, donc de toute façon on a dû sélectionner certaines scènes qui étaient clés, et on a décidé de commencer par la fin, parce qu'il y a un enjeu très important qui n'apparaît pas vraiment dans la Megillah mais dans le Talmud, à savoir est-ce que la Megillat Esther, le rouleau d'Esther, a sa place dans les écrits saints, dans la Bible. C'était tout un enjeu dans le Talmud où la reine Esther a voulu convaincre les sages, les Chachamim, de faire rentrer son livre dans les écrits saints.
Ah, précisez peut-être pour nos auditeurs qui découvrent un petit peu cette histoire, en deux mots, que raconte cette fête de Pourim, la Megillat d'Esther?
Alors, comme Shaul vient de le dire dans l'intrigue, on va faire donc durant la pièce reprendre les épisodes principaux de la Megillat. Pour répondre à l'intrigue, en quoi cette histoire elle est un peu plus spécifique, ou est-ce qu'elle a un caractère original que n'ont pas les autres histoires dans nos écrits saints. Le roi David, Shlomo, une nombreuses victoires, défaites, on n'en fait pas pour autant des célébrations particulières. Ce qui aurait peut-être de particulier dans cette histoire, donc cette histoire elle se passe en Perse, on est entre les deux temples, et Dieu n'apparaît pas dans la pièce. D'ailleurs, vous pourrez vous-même voir pourquoi est-ce qu'on a écrit le roi dans la nuit, le R avec une majuscule, justement, ça renvoie à ces deux choses-là. Donc une des connotations, c'est que Dieu n'apparaît pas. Donc,
c'est un des rares textes où le texte dans lequel Dieu n'apparaît jamais.
Exactement, exactement. Et on retrace...
Qui fait partie du mystère, également, de la Megillah en elle-même.
Complètement, voilà, exactement. Et ça, donc ça se passe en Perse. Il y a Carchashverosh qui est à la tête de l'Empire. Il va nommer Aman, dans certaines circonstances que vous découvrirez dans la pièce. Et au fur et à mesure des événements, Aman fout de rage parce que Mordechai ne veut pas s'incliner devant lui, il veut s'en prendre à tout le peuple juif. Et il va...
C'est peut-être seulement là que Dieu apparaît sans être cité, puisque je crois qu'il dit qu'il ne s'incline que devant Dieu.
Mordechai, oui. Tout à fait, c'est ça. Il considère qu'il y a un très grand et qu'il n'a pas à s'incliner, devant Aman.
Il est suscité mais pas nommé. C'est donc une partie de l'intrigue.
Voilà, et c'est peut-être en ça que ce texte ici fait rupture avec tous les autres textes précédemment. Ça veut dire qu'on marque ici une nouvelle époque dans l'histoire du peuple juif. C'est que Dieu est présent, mais il n'apparaît plus aussi clairement qu'il ne l'était avant dans les différents écrits, dans la Torah ou dans l'histoire du peuple juif. Prenons par exemple, voilà, juste l'histoire avant du temple. Il y avait des miracles donc, qui se passaient de façon manifeste au premier temple. À partir de l'époque d'Esther, et donc c'est valable même pour le deuxième temple, il n'y a plus de manifestation apparente de Dieu.
Alors est-ce qu'on peut estimer que, enfin, on connaît dans l'histoire le moment où le roi n'arrive pas à dormir, qu'on lui demande à un de ses valets de lire une partie de ces grands moments. Est-ce que les pages qui se tournent toutes seules ou le fait qu'on ouvre le livre et que ça arrive sur l'histoire de Mordechai, est-ce qu'on peut appeler ça un miracle ou est-ce que c'est comment est-ce que c'est traité dans le texte original?
Alors c'est toute la question en fait. C'est est-ce que c'est le hasard qui régit nos vies, ou bien est-ce qu'il y a une certaine providence, il y a un sens à nos vies, même si on ne voit pas la présence de Dieu, mais voilà, c'est Aman, ce personnage qui a l'air de vivre avec le hasard, qui va lancer des dés, le sort, il y a écrit Ipilpour ou Agoral, il jette un sort, et alors que les Bnei Israël, eux, vont jeûner, vont faire des prières, vont s'adresser à Dieu, parce qu'eux, ils appréhendent l'histoire d'une autre manière. Donc c'est ça tout l'enjeu, et il nous semblait l'enjeu de faire rentrer ce livre dans les écrits saints, c'est les sages, a priori au début, ne sont pas d'accord, parce qu'ils disent, mais ton livre n'a rien de saint, ton livre, Dieu n'apparaît même pas, on ne peut pas l'intégrer dans les écrits saints, c'est impossible. C'est la première scène.
C'est la première scène, donc vous démarrez avec ça. Combien est-ce que tous les acteurs que vous avez nommés, les canières Arthur Julien, Jonathan Benjo, vous-même, Shaul Schmigard et Moshe Jokroun, vous êtes les quatre sur scène ou il y a encore d'autres personnages qui vont arriver, d'autres acteurs?
Alors, au niveau des comédiens, donc, il y en a quatre, mais en tout, on fait, à nous quatre, une douzaine de personnages. Chaque personne, à peu près, joue trois rôles dans la pièce. Il y a uniquement deux scènes où on nous voit les quatre ensemble, mais sinon à tour de rôle, on peut jouer. On a chacun un personnage principal, mais on peut jouer aussi les Chachamim, la garde royale.
Vous tournez dans vos personnages. Est-ce qu'il y a un décorum spécifique? Vous avez besoin d'un environnement particulier, de la lumière, du son? Enfin, vous avez fait une vraie production théâtrale sur ce sujet?
Alors, on a également un ingénieur du son et de la lumière. Et nous avons des décors également, que nous avons fabriqués nous-mêmes.
Que vous avez fabriqués vous-même, dans lesquels vous avez intégré les jeunes de vos écoles, ou vous avez fait avec vos petites mimines à vous, quoi?
Nous-mêmes la main-d'œuvre. Ouais,
c'est vous-même la main-d'œuvre. Donc c'est un vrai travail de production. Mais vous avez quand même, évidemment, souhaité intégrer une pédagogie au travers de vos étudiants et de vos élèves. Comment ça s'est passé,
exactement,
ça?
C'est pour ça qu'on a fait un document pédagogique, comme vous, Dan, vous l'avez sous les yeux.
Tout à fait.
Un document pédagogique, l'utilité était donc de ne pas venir assister à la pièce et être parachuté dans un univers, des fois, que les petits connaissent, les plus jeunes, en tout cas, au primaire, connaissent moins bien. Donc vous pouvez y trouver dedans une présentation de la pièce, puisqu'on, comme Shaul l'a précisé dès le départ, on n'a pas cité tous les événements de la Megillah, donc ça reprend les passages de la Megillah qui
répondent à l'intrigue. Vous avez fait un best-of, en fait.
Voilà, exactement. mais qui est centré sur l'intrigue. Il y a peut-être des moments très phares dans la Megillah comme le festin, mais comme on pensait qu'il ne répondait pas à l'intrigue qu'on a posée nous dans la pièce, donc ça a été mis...
En fait, vous avez pris un parti pris et vous avez fait vos sélections pour une durée de combien de temps environ?
Entre 50 minutes et une heure,
je pense. 50 minutes et une heure sur les réactions également de la salle. Est-ce qu'il y aura, façon Robert Hossein, un choix à la fin? Est-ce qu'on pend ou ne pend pas Aman, ou est-ce qu'il y a une double possibilité? J'ai l'impression qu'il y a... En tout cas, vous avez cherché une manière originale de traiter le sujet, de le traiter de manière différente.
C'était également le but de montrer un certain angle de la Megillah.
C'est ça.
Il y a plusieurs façons de la comprendre et nous on en a choisi un, mais
un assumé.
On vous laisse le suspense et on vous laisse venir dimanche 8 mars.
Et on se réjouit d'avance.
Où est-ce qu'on peut vous voir jouer le 8 mars?
Alors le 8 mars, il y a deux horaires à l'espace Noah, soit à 14h, soit à 16h30.
D'accord.
Attention, le nombre de places est limité.
On le rappellera en fin d'émission, mais c'est... Bon, on est là pour vous faire un peu de pub aussi.
Merci.
Promotionner ce moment. Je voudrais juste revenir sur le travail que vous avez fait pédagogique avec les élèves. C'est ce que je trouve intéressant et surprenant, que ce soit là les professeurs qui se mettent en avant. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir les élèves, on met les élèves, parce que ça fait partie du principe, parce qu'on est là pour leur faire apprendre, pour les faire lever. Là, vous passez de l'autre côté de presque de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de la scène, en assumant votre posture de comédien et également de prof.
Moi, personnellement, voilà, c'est aussi un des objectifs qui nous tiennent à cœur. Comme je vous le dis, je travaille aussi dans des mouvements de jeunesse ou dans des colonies de vacances en été. Je trouve qu'il y a un petit peu une perte aujourd'hui, ces dernières années. Moi, quand j'étais jeune, donc, j'étais dans des mouvements de jeunesse comme le Bnei Akiva, par exemple.
Vous êtes toujours jeune, Moshé Choukroun.
Merci, Dan. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait beaucoup de productions, je trouve, de la part des animateurs ou des directeurs de mouvements de jeunesse, des choses très originales, comme on peut voir encore aux EI, par exemple. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu, à force de croiser des équipes d'animateurs chaque été, un peu une perte, on va dire, voilà, d'originalité ou de production. Et j'ai l'impression qu'ici, en se montrant devant les élèves et nous-mêmes, hein, ça veut dire en s'exposant, voilà... avec toutes les difficultés que ça peut avoir.
Et le temps, parce que c'est du temps de travail aussi.
Voilà, c'est deux mois de travail acharné. On a l'espoir, voilà, que ça puisse montrer un peu la voie aussi et donner goût aux enfants de faire des choses, de sortir un peu du carcan scolaire ou de ce qui est proposé, de pourquoi pas faire des pièces, créer des nouveaux jeux, puisque voilà, ce sera eux demain les acteurs de la jeunesse pour proposer différents projets.
Tiens, tu vois, en fait, finalement, ils sont en train de préparer et de montrer ce dont la communauté, le consistoire a besoin, c'est-à-dire des bénévoles, des gens intégrés dans la communauté, et vous préparez les générations futures. Donc il y a, au-delà de ce projet pédagogique, bien sûr, l'intégration et la transmission, qui sont toujours au cœur du sujet.
Je rajouterais juste... C'était aussi pour ça que c'était important de travailler avec différents enseignants de chaque école, aussi pour montrer aux enfants que c'est pas parce qu'on est à Yehuda Lévi, Tashbar ou Akiba qu'il ne peut pas y avoir des ponts et qu'on peut pas s'asseoir ensemble et travailler.
On n'est pas concurrents dans les collages.
C'est ce qu'on voulait montrer.
En fait, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que vous adressez à des petits quand même, ils sont primaires, et que ces enfants, vous leur racontez une belle histoire, un petit peu comme Aladdin à Broadway. C'est un petit peu... justement parce que le fait que Dieu n'apparaît pas, qu'il n'y ait pas ces faits religieux et le Kodesh qui n'apparaît pas, c'est vraiment une belle histoire que vous leur racontez, qu'ils prennent pour tel. Sauf que derrière cette histoire, vous arrivez à faire passer des messages. Bon, on parlait du 8 mars et de la journée du droit de la femme, mais Esther est quand même une femme importante dans la mémoire juive, puisque c'est une femme qui a sauvé son peuple. Et d'ailleurs, c'est même pas la petite histoire, pour l'histoire, Esther et Mordechai sont vénérés aujourd'hui encore en Iran. Tous juifs qu'ils sont, leur tombeau est un lieu de pèlerinage pour les Iraniens. C'est surprenant. Mais Esther, au-delà de notre communauté, est un personnage iconique en Iran, un petit peu comme Jeanne d'Arc en France, puisqu'elle a sauvé son peuple, et tout le monde sait qu'elle était juive, mais tout le monde se rappelle que ça se passait en Perse, et donc elle est devenue un personnage iconique pour tous les Iraniens. Et son tombeau est préservé et visité par de nombreux Iraniens. Je ferme cette parenthèse historique, donc les enfants sont là pour recevoir ces histoires, et vous suscitez en eux, vous plantez une graine, vous suscitez en eux une réflexion qui va ensuite, plus tard peut-être, germer et se dire « Ah ben, finalement, cette histoire... »
Et qui est absolument essentielle.
Elle a un message important pour nous, juifs. C'est que d'abord, on ne s'incline pas autre que Dieu, et ensuite, on est là aussi pour résister.
Résister et être conscient que, voilà, même quand la présence de Dieu n'est pas manifeste...
Il est quand même là.
Voilà. Voilà, on peut le...
Envers et évidemment, toujours. On va rappeler Moshe Choukroun et Shaul Spingard les dates et les horaires de la pièce que nous allons pouvoir découvrir, Le Roi dans la nuit. C'est donc le dimanche 8 mars, première représentation à 14h au Centre Noah, suivie d'une deuxième à 16h30. On parlait des enfants, mais bien évidemment, c'est pour les grands et les petits, enfin les petits et les grands, parce que les adultes ont aussi le droit de pouvoir y accéder. Et il y a d'autres représentations et d'autres dates qui sont prévues.
Donc jeudi et vendredi, jeudi pour Yehuda Lévi et Tashbar, et vendredi on aura deux représentations pour l'école Akiba.
Bien sûr,
je voudrais aussi, j'en profite pour, au nom de toute l'équipe, remercier Stéphane Guessman, qui nous a énormément suivi dans ce projet quand on est venu le voir il y a un mois pour le jour là, qu'on voulait le faire un peu aussi en association avec la communauté.
Ah, Stéphane donc, qui fait un travail exceptionnel au sein du consistoire pour la jeunesse.
Et que nous saluons, bien évidemment.
Donc, il nous a donné aussi pas mal de moyens et pas mal de conseils
pour que ça fonctionne.
Pour que ça, qu'on aille jusqu'au bout à l'espace Noah.
Il nous reste quelques secondes pour rappeler donc l'événement.
Programme chargé de ce 8 mars, voilà. Avec ce focus que nous venons faire sur Le Roi dans la nuit, pièce qui se déroulera donc à la communauté à l'espace Noah, et bien sûr aussi la grande soirée des cigognes qui aura lieu dans la foulée à la Village Tourm. À quelle heure, Thierry Ross?
À partir de 17h, il me semble, Dan Leclerc.
Voilà, donc il y a possibilité pour toutes et tous
de manger et confectionner des madeleines sous la vigilance et la surveillance de Mendy Samama, que nous saluons.
Voilà, donc grande journée de ce dimanche 8 mars dans lequel toutes et tous pourront trouver leur plaisir et leur bonheur, gustatif comme festif, avec la pièce de théâtre, des dégustations, des beignets, des madeleines, tout ce qu'il faut. Un grand merci à vous, Shaul Spingard et Moshe Choukroun, d'être venus, enfin, d'avoir accepté cette invitation directement sur votre lieu de travail. On salue également la présence d'Arthur Julie et Jonathan Benvio, que nous aurons le plaisir de découvrir dans cette pièce. Et Shaul Spingard, je crois que vous voulez dire encore un petit mot.
Merci à vous.
Et ben voilà.
Merci beaucoup.
Ça c'est fait.
On vous attend.
Et on se réjouit de découvrir votre pièce. Bien sûr, toutes les informations, vous les retrouvez sur le www.radiojudaicastrasbourg.fr avec les informations du Roi dans la nuit et le programme de Pourim. À très bientôt.
À tout de suite.
Retour au studio et toujours à l'école Akiba avec cette fois-ci le directeur de l'école Akiba que nous avons le plaisir d'avoir. Bonjour David Usan.
Salut, bonjour Dan.
Très heureux de vous avoir au micro de Radio Judaïka, spécial école Akiba et spécial Pourim. Et dans ce cadre-là, et juste avant, il y a quelques semaines, vous avez reçu, David Usan, le prix Tenuji, un prix d'honneur d'éducation à vocation éducative distribué par, entre autres, le FSJU.
Absolument.
Dans le cadre d'un fonds particulier dont un des illustres prédécesseurs et fondateurs de l'école Akiba, Beno Gross, a été le récipiendaire. Oui. Vous en avez donc la digne lignée.
Oui, il y a eu même trois directeurs de l'école Akiba maintenant qui l'ont eu. Monsieur Beno Gross, Yeron Evracha, Monsieur Jean-Paul Amoyel et moi maintenant. Et donc c'est une fierté pour toute l'équipe parce que c'est pas tout seul.
C'est un prix national
Pour la vocation éducative. J'aime bien le mot parce que c'est vrai, je sens que je fais pas un métier, mais plutôt que je réalise un idéal, quelque chose, une vocation, une voix VOIX qui parle en moi, qu'il faut faire ça. Voilà.
Après les festivités de l'école Akiba dans le cadre de son anniversaire qui a été célébré il y a maintenant déjà deux ans, c'est absolument incroyable. Le temps passe trop vite, tout file à vitesse grand V. Voilà maintenant honoré, mais votre mise à l'honneur, c'est également par extension, bien sûr, l'honneur de l'école Akiba
de
que vous représentez, de toute l'équipe.
C'est pas tout seul tout ça, mais bon, je suis content de le porter pour eux, quoi. Je ne sais pas comment le jury a choisi son récipiendaire, son lauréat. J'imagine c'est les choses que nous avons fait pendant 10 ans, c'est ma 10e année de direction. Les choses que nous avons fait se sont connues à travers le journal, à travers les anciens élèves, à travers des parents qui ont quitté Strasbourg et qui ont dit à droite à gauche. Vous savez, je vais vous dire, une école, c'est pas une chose qui est très difficile à savoir si elle marche ou elle marche pas. Quand on s'occupe des enfants, ça doit marcher normalement. Des gens professionnels qui s'intéressent aux enfants, qui viennent pour les enfants, disons, qui, je vais être un peu méchant, qui viennent plus pour les enfants que pour eux-mêmes, eh bien ça marche.
Voilà, c'est le clé d'une bonne éducation, d'une bonne
Il faut venir pour les enfants plus que pour sa carrière.
Alors, En ce moment, justement, les enfants, c'est un petit peu la fête de Pourim. Ouais. On dit traditionnellement que c'est la fête des enfants, mais pas que, parce que c'est quand même plus profond. On a interviewé il y a quelques minutes, et dans le début de l'émission, un des enseignants, Moshe Choukroun, de l'école.
Alors moi, je voudrais te préciser quelque chose là-dessus. Cette pièce de théâtre-là, elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord, elle est intéressante parce que son contenu a été écrit avec précision, etc. Mais elle est surtout très touchante pour nous. Parce qu'il y a trois acteurs qui sont trois enseignants de trois écoles de la ville.
C'est ça.
Monsieur Choukroun d'Akiba, Monsieur Spingarn, qui est le responsable du collège de Yehuda Lévy, et Monsieur Julier, Arthur Julier, qui est enseignant à Tashbar. Il n'y a pas meilleur exemple d'unité que trois anciens élèves de nos écoles soient maintenant trois maîtres dans nos écoles. Et qui écrivent des pièces pour les enfants de nos écoles. Donc c'est une réussite de la ville de Strasbourg, hein, c'est une réussite. Deuxième chose, moi je suis très touché de voir que mes anciens élèves sont devenus des maîtres. Donc je vais commencer à calculer mes points de retraite, puis il y a des successeurs.
Ça y est, voilà. on est pareil, ça sera la prochaine étape, on aura l'occasion de se revoir encore d'ici là.
J'espère.
Merci beaucoup David Usan d'avoir pris quelques minutes, je sais que votre emploi du temps est très chargé, et on vous souhaite encore bien sûr beaucoup de succès pour vous, pour l'école Akiba, et puis pour tous ces jeunes qui continuent et qui célèbrent Akiba au travers des années.
À bientôt, bon pour
vous. Communiquer.